Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Une vie, une œuvre qui nous conduit aujourd'hui en Grèce, sur l'île de Lesbos précisément, car nous parlons aujourd'hui de la poétesse Sappho. Sappho, un nom célèbre dans le monde entier, dont chacun sait qu'il renvoie au lesbianisme, une notoriété de surface qui reflète cependant mal la connaissance du grand public pour ses œuvres elles-mêmes, des poèmes qui ont d'ailleurs fait beaucoup de chemin avant d'arriver jusqu'à nous. Et c'est donc assez indirectement par différents auteurs qu'ils nous parviennent aujourd'hui déformés, comme on l'imagine. Alors Simone Dweck s'est employée à démêler autant que possible les différents fils de la trajectoire de Sappho pour tenter d'y voir plus clair dans le documentaire que nous vous proposons aujourd'hui et qui est réalisé par Françoise Camard.
Il est simple, mais c'est un de ceux que j'ai toujours aimé. Asteres men amphicalan selanan, apsapucropt si phaenon eidos, opota pletoisa malista lampe, gan, ep amoran, arguria. Les étoiles qui dans le ciel escortent sa beauté offusquent leur clair visage lorsque dans son plein sur la terre obscure brille la lune argentée. Il n'y a pas de texte. Ce que nous avons, ce sont des pépites qui ont été retrouvées aussi bien chez les lexicographes, chez les doxographes, chez les citateurs, sur des tessons de bouteilles, sur un papyrus qui a pu confirmer un certain nombre de choses. Mais c'était surtout la tradition orale à l'époque. Il n'y a pas eu de livre, il n'y a pas rien eu évidemment d'écrit. Donc tout s'est reconstitué avec le temps. C'est une sédimentation longue et nous avons gardé, si vous voulez, des images, des moments forts. Et c'est pour cela que je pense que la poésie de Sappho, d'abord parce qu'elle est très puissante, mais aussi parce que ce que nous en avons gardé, ce sont des fragments et des fragments qui ont une densité, si vous voulez, je ne dirais pas qu'elle la même densité que les fragments chariens, mais c'est une densité qui est proche de l'aphorisme, avec une très grande douceur. Oui, on retrouve des choses qui sont d'une modernité étonnante. Je citerai simplement quelques-unes. Alors, quand il n'y a presque rien, par exemple, vous avez sur restant désir, sueur, rose, jeudi.
Dans ces bribes, ces mots qui éclatent comme des bulles, comme ça, il y a des sonorités, il y a des éclairages, il y a des choses qui sont perceptibles, mais aussi il y a un genre qui nous amène, si vous voulez, à la contemporanéité. Je pense que cette écriture fragmentaire peut être maintenant reçue comme telle à notre époque. Avant, si vous voulez, ces fragments auraient été des lacunes, de simples lacunes. Maintenant, ils sont à l'intérieur, ces mots, d'un silence qui est plein. D'un silence qu'on peut comprendre, qu'on peut interpréter d'une autre façon, d'une façon libre. J'ai comparé cela à une installation contemporaine. Oui. On peut se promener dans cette forêt de mots. Des mots comme barbitos, baromos, barmos. Si j'ouvre, je n'ai qu'à ouvrir et je trouve des mots, n'est-ce pas, avec des plus ou moins d'entourage. Les dieux, aussitôt, voilà, c'est les mots. Et tout d'un coup, il y a la richesse et puis il y a tout d'un coup ce fragment vierge à la voix suave, etc. Vous comprenez, on peut, et ce serait dommage de ne faire que ça, mais on peut profiter de ces mots.
Ont disparu la lune et les Pléiades, au milieu de la nuit, à mon côté l'heure passe, et moi seul, je suis allongé. Je pourrais en citer énormément. J'ai parlé en rêve avec celle qui est née à Chypre. voyez, le travail que j'avais voulu faire, c'était de donner à entendre ces aphorismes. Alors, c'est très paradoxal, parce que ça devient presque mallarméen quand on essaye de ne restituer que ce qui est absolument certain. Parce que je m'étais interdit toute conjoncture, toute hypothèse poétique, voyez, de dérive. Et c'était presque un travail d'archéologie. Mais c'était donné à voir le matériau brut dans ce qu'il a d'extraordinaire. Mais c'est aux musiciens, parce que ce n'était pas pensable sans la lyre, c'est comme le théâtre sans la musique, le théâtre antique, c'est aux musiciens aujourd'hui de reprendre.
Par les hasards de la transmission des manuscrits, qu'ils soient citations chez d'autres auteurs ou fragments de papyrus, nous sont parvenus 264 fragments de longueur très inégale de l'œuvre d'une poétesse appelée Sappho. D'elle, on possède quelques éléments biographiques, sociologiquement plausibles, mais qui demeurent hypothétiques. La poésie de Sappho dans l'Antiquité était assez importante pour constituer 9 livres. Les poèmes étaient regroupés en fonction de leur maître, c'est-à-dire du rythme de leur vers. Et beaucoup de siècles ont suivi pendant lesquels Sappho n'a cessé d'inspirer les poètes, et aussi ceux qui ne peuvent pas en finir de la lire, de la traduire et de la citer encore. Ceux-là qui, précisément, parlent ici. L'un me dit qu'il aurait fait le tour du monde pour un vers de Sappho. Une autre peut faire habiter dans la poésie de Sappho de Mytilène les aspirations et les luttes du féminin contemporain. Celui qui, en relisant pour nous sa traduction, retrouve la poétesse qu'il avait toujours lue avec ses blancs et ses silences. Celle qui chante, là derrière, qui improvise sur le grec ancien, avec son souffle et ses soupirs, son corps qui danse jusqu'au bout des doigts, ses regards de joie, de contemplation ou de colère. Et lui, pour qui le livre de Sappho n'arrête pas de s'écrire, en attente des vers que l'on peut découvrir. Et sur les rives poussaient les pois chiches d'or. L'incessante répétition de vers étranges, de mots vivants et animés. Asteres menam picalans
Je désire et je brûle.
Je désire et je brûle.
Caipoteo, caimai, omai. C'est quand on voit le mot isolé sur la page blanche, en fait, on est ramené à la voix directement. Et en fait, on est dans une constellation de fragments, de paroles, d'éclats de paroles, d'éclats de voix. Et que le texte soit plus ou moins long, plus ou moins court, on a toujours l'impression d'être face à l'essentiel. Quelqu'un qui chante, qui parle, qui dit je, Egor.
Philippe Brunet.
Avec Sappho, on a l'impression d'un je qui parle, qui s'exprime. Ça apparaît avec Hésiode, ça pointe assez violemment et de manière intempestive avec Archiloque, et puis tout à coup, c'est l'unique, parce que ça n'est pas la seule femme qui s'est exprimée en poésie dans la Grèce antique, mais c'est la seule voix qu'on a l'impression d'entendre vraiment en tant que voix, en tant que personne.
De ce je, on connaît quelqu'un, on devine quelqu'un.
On sent quelqu'un, alors. Quelqu'un qui n'est pas un je enfermé en lui-même non plus, mais qui est pris en relais aux femmes, par les femmes à qui elle s'adresse, les jeunes filles, les divinités à qui elle parle. C'est comme si elle faisait passer sa parole des jeunes filles qui la quittent à un moment ou un autre, forcément, puisqu'elles vont partir se marier, après avoir chanté, dansé avec Sappho, vient le moment de la séparation et la douleur. Et puis il y a ses prières à la divinité. Et puis pour nous, et pour toutes les femmes, et puis pour tous les lecteurs, hommes ou femmes, peu importe, qui lisent Sappho, il y a comme cette espèce d'intercession qu'elle opère, en fait, très mystérieusement, avec toutes les femmes. Et aussi, elle est un peu comme la muse. On a toujours dit qu'elle était la 10e muse dans l'Antiquité.
Platon a dit ça, non ?
Voilà. Mais de même qu'elle s'adresse à l'autre, Aphrodite, ou celle qu'elle aime, de même, nous adressons à Sappho, en fait. Et donc, on est tout de suite dans un rapport de miroir, de regard face à elle, d'écoute. Et c'est ce qui rend très, très particulier, le rapport qu'on a à ce poète.
Alors, Jacques Pigeot, qu'est-ce que l'on sait quand même de Sappho ? On sait des bribes, on sait peu de choses d'elle, mais vous m'avez dit on peut quand même connaître Sappho à travers sa poésie.
Ben oui, on peut la connaître à travers sa poésie. Je dois dire que tous ces essais de biographie sont intéressants, mais ils tournent au court, bien entendu. On sait qu'elle est de 650 ou 630 avant Jésus-Christ. On sait qu'elle était une petite noiraude, un petit pruneau. On sait qu'elle n'était pas belle. On sait qu'elle était, et débarrassons-nous tout de suite de cette question, homosexuelle. Et je dois dire que c'est une question, mais ce n'est pas un problème. Elle était hétérosexuelle et homosexuelle. Et ce dont elle nous parle, c'est de désir, c'est d'amour, c'est de fantastique et irrépressible désir. Et ces choses-là, elles sont à nous tous. Et c'est ce qu'on connaît de Sappho, on peut le voir, le sentir dans sa poésie, c'est justement une femme qui est, dirons-nous, une prédatrice un peu, qui nous donne l'instant d'une vision éblouissante et d'un désir qui naît. Ensuite, quelqu'un qui se plaint de sa vieillesse, quelqu'un qui pleure ses cheveux blancs et qui déplore le désamour d'une telle ou d'un tel, qui demande la vengeance. C'est une femme prodigieusement humaine et qui est en même temps, qui nous a donné, à nous de l'Occident, une certaine sensibilité. C'est elle qui nous a appris la maladie d'amour.
Actuellement, on se plaint, on dit qu'on a très peu de choses, 500 vers, et que c'est un naufrage terrible. Et toute la poésie lyrique grecque a été perdue, sauf 4 livres de Pindare. Alors on a retrouvé 2 livres de Bacchylide, sur des papyrus conservés à Londres. Et on a retrouvé, en même temps, c'est les gisements des papyrus égyptiens, des stocks de papyrus, Pindare aussi, Bacchylide, et un peu de Sappho. Et c'est ce qui fait qu'à la fin du XIXe siècle, on a commencé à rassembler tout un livre de bribes, et parce que les papyrus nous apportent évidemment les poèmes dans un état très mutilé, autour de quelques citations qui avaient été peu à peu rassemblées à partir de la Renaissance. Et autour principalement de 2 poèmes, l'hymne à Aphrodite et l'ode à l'aimé, et puis le petit fragment sur les étoiles, « Asteris menam picalan selannan », au départ, c'est ça, Sappho. C'est une citation chez Longin, le traité du sublime, sur cette espèce de grandeur héroïque dans la dépossession de soi que décrit le poème L'Ode à l'aimé. Et puis le poème le plus harmonieux qui soit l'exemple du poème musical pour Denis d'Halicarnasse, c'est l'hymne à Aphrodite. Poikilotrona thanata prodita. Et là, cette strophe qui constitue le seul poème dont on soit sûr qu'il ait été transmis intégralement. D'abord, elle est originaire de Lesbos, et Lesbos est une île qui se trouve à quelques encablures de la côte actuellement turque. Donc c'est important, elle est tournée vers l'Asie. En face, il y a la Lydie. Lydie, sa capitale est Sardes. De Sardes viennent des très beaux tissus bariolés, des rubans, et sa foi une fille, Cléis. Et Cléis lui réclame ces mitres magnifiques qui viennent de cette partie de l'Asie, qui est en fait qui se trouve son correspondant dans le mythe de Troie. En fait, toute la couleur, toute la richesse, tous les éclats des voix de femmes et les couleurs des tissus viennent de cette partie du monde. Et puis Sappho un moment, on arrive à la suivre en Sicile. Et là, elle souffre, parce qu'elle est loin.
Elle est exilée, alors, là.
Elle est exilée, on suppose que c'est pour des raisons sans doute politiques. On ne sait pas très bien exactement, c'est très peu de choses, en fait. Et donc, elle souffre de cet appel de sa terre dont elle est privée.
Par exemple, on n'a pas d'écrit de cela.
On n'a aucun écrit. On ne sait pas exactement où elle est née, si c'est Eressos ou Mytilène. Il faut dire que Lesbos est une terre de poètes. Depuis que, dit le mythe, la tête d'Orphée, arrachée et décapitée, a été jetée dans le fleuve et a descendu dans la mer Égée pour venir aborder avec la lyre, et la tête chantait toujours, la bouche ouverte, la voix d'Orphée, a abordé à l'île de Lesbos, où il s'est constitué un sanctuaire. Et ça signifie aussi que le don de poésie est passé à Lesbos. Et on a vu Terpandre, qui a ajouté des cordes à la lyre et qui a exercé surtout à Sparte, donc qui est parti de Lesbos. Et en même temps que Sappho, il y a un autre poète, ami de Sappho. On dit parfois qu'il aurait voulu être son amant, Alcée, Alcaïos, et il écrit dans la même langue, dans le même dialecte lesbien, c'est-à-dire un éolien d'Asie, le même dialecte que Sappho, dans les mêmes types de vers extrêmement fins, ciselés, que sont ces vers de la métrique éolienne. Donc une branche vraiment très précieuse et très à part, très, très reconnaissable dans l'immense diversité de la poésie grecque. Et Alcée donc était le contemporain de Sappho. Et on a une image et même un poème où il semble... Alcée demande à Sappho, « Je veux te dire un mot, mais la honte me retient. « Telotiteipen, alla mecolue aidos. » Et Sappho, c'est Aristote qui cite ce passage ou ce poème, Sappho aurait répondu, « Si tu ne désirais que le bien, le beau, la honte quitterait tes yeux et tu parlerais sans aucune gêne. » Je traduis comme ça de mémoire. Et voilà. Donc ici, le fait biographique semble exister à l'intérieur même du poème. Donc on a bien quelques indices sur sa vie. Mais maintenant, est-ce que ça n'est pas une interprétation qu'Aristote, avec ses contemporains, plaquait sur le poème ? On ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas le nom d'Alcée. Dans certains poèmes, il y a des noms de jeunes filles.
Attis,
Anactoria. Et parfois, on a voulu placer d'autres noms de jeunes filles dans des poèmes où ils n'avaient pas de place. C'est le cas d'ailleurs de l'Ode à l'Aimée, où à la fin de la quatrième strophe, pendant plusieurs siècles, il manquait trois syllabes. Et donc, on a cherché à remplir ces trois syllabes avec des noms de jeunes filles. Puisque Catulle avait imité le poème, l'avait quasiment traduit, en l'adressant à lesbie. Et donc, on a mis des agalis, enfin, toutes sortes de noms de jeunes filles, finalement, pour découvrir en 1965, grâce à un tout petit papyrus conservé à Florence, que le texte disait « à moi-même ». « Emaotai ». »« Painom emaotai ».
À ce moment-là, elle vit, enfin, elle est en quelque sorte, oui, elle est contemporaine du Bouddha.
Pascal Charvet.
De Nabucodonosor, ça donne un peu une idée, vous voyez, de l'époque où elle vivait, et en particulier, évidemment, de tout ce qui se passe à Athènes, de la, comment dire, de l'installation aussi des tyrans à Athènes, mais de Solon également. Et donc, elle va connaître une vie qui sera assez mouvementée parce qu'elle est d'une bonne famille, qui possède des vignes, qui possède des huiles, beaucoup d'oliviers aussi. Il y a les marins dans la famille, son frère Caraxos. Et elle va donc participer à cette vie de Lesbos, ce triangle, c'est ce qu'on appelle l'île aux cinq villes. Hein. Et elle va être mêlée aux fameuses luttes de clans, puisque... Si vous voulez, l'île de Lesbos, c'est sur le passage, en quelque sorte, du blé. C'est la route du blé, pourrait-on dire, vers la mer Noire. Et donc, les Athéniens cherchent sans cesse à la contrôler. Ce sont en permanence, non pas tout le temps, mais souvent des guerres, évidemment, qui opposent Athéniens et, évidemment, habitants de Lesbos. Et donc, elle va être amenée à prendre parti à un moment donné pour certains, en particulier Pittacos. Elle ne sera pas... puisqu'elle va être très proche, il faut le dire, d'Alcée, qu'elle suivra Alcée dans son exil, et elle sera en exil à peu près pendant 5 ans. Voilà, qui finalement reviendra, mais ce n'est pas un exil terrible, hein, l'exil qui l'amènera jusqu'en Sicile. Elle a donc été en exil avec Alcée, partie jusqu'à Syracuse, puis elle est revenue puisque le tyran de Mytilène a fini par préférer le pardon à la vengeance, et donc elle est revenue. Et là, je veux dire, elle a été vraiment très très célèbre, fameuse, au point même de susciter un certain nombre de jalousies. Alors, bien entendu, la question qu'on pose toujours sur sa mort... On ne sait pas du tout le sceau de Leucade, bien entendu, peut-être pas, mais en tous les cas, ce qui est beau dans l'idée, dans le mythe, moi ce que j'en retiens, c'est que la seule fin de sa fausse était de rejoindre Aphrodite dans la mer. C'est tout dans l'écume.
Eros, il met le désordre en ma tête, comme le vent des monts s'abat sur les chênes. Je ne sais plus où diriger ma course, deux âmes sont en moi. Et puis, la seule vue de ta tunique, ô ma belle, m'ensorcelle et je jubile, car te voici réprimandée pour cela par la chypriote.
Sappho, je n'ai pas pu m'empêcher de céder à l'homonymie.
Oui, mais je vous comprends. Je vous comprends. D'autant plus que, finalement, grâce à cette homonymie, j'ai fait la connaissance de Sappho, en fait. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est dans cet ordre-là. Je vais d'abord vous raconter une petite histoire qui nous conduit à ce livre que j'ai entre les mains. J'étais tombée de scène dans la fosse d'orchestre et je m'étais cassé le sacrum et j'avais 3 mois d'immobilisation. Et là-dessus arrive... J'étais sur mon lit de douleur pendant 3 mois et arrive un petit monsieur charmant, très délicat, Jérôme Vérin, qui me dit « Écoutez, voilà, est-ce que vous seriez d'accord pour me faire une préface pour une traduction des poèmes de Sappho ?» Alors je dis « Ah, mais avec joie, je trouvais le jeu très, très amusant. » Et il m'apporte sa traduction, que je trouve extrêmement intéressante parce qu'elle respecte la métrique des strophes saphiques et que, du coup, pour moi, ça avait vraiment quelque chose de précieux parce que je suis quelqu'un de la musique et que je trouve que respecter la musique, donc la rythmique d'un poème, c'est essentiel, ça me paraissait très important. Et ça, je trouvais ça très, très, très respectueux, je me répète un peu, mais c'est respectueux de la part du traducteur. Simplement, je trouvais ça de temps en temps un peu académique. Et je me disais que la Sappho, si elle avait tenu comme ça le choc, la marée, si on la lisait encore, elle devait être quelqu'un, comme tous les auteurs, je trouve, de particulièrement vivant. Et je voulais que le texte soit plus dru, il soit plus proche et moins affecté. Et j'ai demandé qu'on retravaille, alors à partir de la traduction déjà faite de cet homme très érudit, moi qui ne parlais pas du tout le grec ancien ni le grec tout court, on a retravaillé et j'ai un petit peu collaboré à cette traduction par cette réécriture du texte qui m'avait présenté, qui était déjà très élaboré. Est-ce que je peux vous lire ma petite lettre de Sappho ? Parce qu'après avoir lu finalement cette traduction, attentivement, de très près, puisqu'il fallait la réécrire, j'ai eu envie d'écrire ça. Je te cherche, Sappho, sur les bords de Lesbos, île à la chevelure clairsemée. Je te cherche, Sappho, car un jour, on me coiffa de ton nom quand j'ignorais encore tout de toi. Un jeune homme se moquait de mes jeux de peur et d'attirance avec d'autres femmes blessées comme moi, terrorisées d'elles-mêmes. Je te cherche, Sappho, moi qui aime les hommes, mais l'amour est blessure éternelle qui court sur toutes les lèvres. D'abord ce nom très court, comme un chuchotement qu'on entendait dans le silence, indiscret à cause des sifflements. C'est Sappho, c'est Sappho. Tu écoutes une salle entière dire cela, ça fait beaucoup de bruit en somme, comme des balais frémissant sur la cymbale. Écoute, Sappho, car tu en es cause, même si de ton vivant cette rumeur-là s'accompagnait de sourires et ricanements. Le visage du courage fait rire, le visage du courage peut prendre les traits de la laideur. Seuls les braves le reconnaissent, nourriture bienfaisante dans la boue des tricheurs. Tu cours dans nos mémoires, ombre indistincte, et bien que l'on ait voulu effacer tes contours, qu'on ait brûlé tes livres, que le temps les ait perdus comme l'érosion sournoise ronge le rocher, ta parole traverse la distance, flèche précise à nos cœurs. Il faut tout oser, et puis on ne sait plus, c'est un fragment. Mais quelle magie dans cette interruption. Même cet attentat te sert, cet embryon de destruction te fait survivre plus fort. Ce « il faut tout oser » m'émerveille encore, car nous voici en l'an 2000, mais maintenant des poussières, aujourd'hui, et si peu ose grand-chose. Je te cherche, Sappho, je veux qu'on se souvienne. Quelqu'un se souviendra de nous plus tard, j'en suis sûre. Et tu n'en doutais pas. Deux âmes sont en moi, disais-tu encore, et j'en soupire, et tu chantes l'absence et ce vide infini, jamais comblé, cet autre jamais là quand on le veut, dont le baiser ne s'ajuste jamais tout à fait à nos lèvres. Et tu chantes Andromaque ou Hélène, et ta voix est celle d'une épopée, mais aussi c'est là que je suis frappée, tu parles de la beauté qui meurt et du bien qui demeure, de l'argent invité, parfois peu recommandable, de ces hommes qui te ravissent l'aimer pour neuf bœufs, et j'entends ta révolte pleine de sagesse, ton refus de la résignation. Sappho, tu t'es jeté de la falaise pour l'amour du jeune fan, et moi, plus modestement, je me suis jeté dans la fosse d'orchestre. Aujourd'hui, il ne faut plus aller si haut pour mourir, tout est plus petit. Il y a beaucoup plus de monde et les chants sont plus courts. Je ne parle pas de la quantité des mots, toi, il fallait qu'en trois vers tu aies tout dit. Je parle de l'ampleur de la voix, je parle de cet espace du verbe qui s'est considérablement rétréci, mais en dépit et à cause de cela, j'écris à une aimée très présente.
Qu'est-ce qu'elle a fait, Sappho ? Qu'est-ce qui est novateur ? D'abord, elle a inventé une strophe, la strophe saphique, qui a un rythme bien particulier et qu'adorait Horace.
Jackie Pigeot.
Elle a inventé aussi quelque chose qui est l'expression même de l'intériorité. Je voudrais vous dire le premier vers que nous ayons du premier fragment. Qui est un vers absolument sublime, c'est le cas de le lire, et qui est celui-ci. Je le traduis comme ça, mais je me reviendrai. « Dont le trône éblouit de couleurs multiples, immortelle Aphrodite, fille de Zeus, tisseuse de ruse, je te supplie, ne terrasse pas mon cœur de nausées ni de chagrin, ô sainte. » Ce que je traduis, ce que j'essaie de traduire, de rendre par ébloui de couleurs multiples, c'est un seul adjectif qui est poikilon. Et ce poikilon est d'une importance extraordinaire. C'est l'éblouissement, c'est le scintillement, c'est tout ce qui est merveilleuse bigarrure, si vous voulez. Toute poésie, tout grand poète commence par cette espèce d'éblouissement et commence par distinguer les choses. C'est un mot tellement difficile que le latin ne parvient pas à le traduire. Le latin traduit par varius, qui est aussi un mot de peintre, varié, mais dans la variété, on peut reconstituer, donner à chaque couleur, retrouver des couleurs différentes. Le poikilon, c'est l'éblouissement divin. C'est l'arrivée, par exemple, de Vénus dans le poème de Lucrèce. Et ensuite, il y a cet appel à Aphrodite, « Ne terrasse pas mon cœur de nausée ni de chagrin. » C'est là, on le remarque assez peu, là, le début de l'association de deux termes, « assez » et « agné », l'un voulant dire la nausée et l'autre la peine, la douleur, le souci, qui fait comme un couple fatal, si vous voulez, hein, et qui est l'association génératrice à la fois, je dirais, de la mélancolie et du mal d'amour.
Tu vas, je te désirais. Tu as su rafraîchir mon esprit, embrasé d'amour.
Elle a créé la strophe saphique avec des changements, des alternances, sur un jeu sur des longues et des brèves, et puis jouant sûrement des cassyllables aussi. Et puis également, alors ce dont on parle moins, c'est de son invention d'un instrument, d'une lyre à 20 cordes qu'on tenait contre soi, beaucoup plus serrée, vous voyez, beaucoup plus charnelle, beaucoup plus sensible. Donc c'est de Sappho, la musicienne, dont il faudrait parler également.
Cette monodie, donc, c'est le chant à une voix,
oui,
par opposition au chœur.
Bien sûr, bien
c'est
sûr.
Ça. Et alors, quel rapport ça peut avoir avec le lyrisme? Parce qu'on parle de poésie lyrique.
Ah ben là, je crois que là, c'est assez simple. C'est que la poésie de Sappho est toujours une poésie à la fois du désir et du désir dans l'absence, avec ce mot pothos qui revient. Et elle a ce mot merveilleux, je voudrais retrouver, c'est le glucupikos, c'est-à-dire le doux amer. L'amour est doux amer pour elle, et elle le dit, elle donne une définition d'Eros qui est absolument là-dessus. Voilà. Eros encore, le délieur des membres me secoue, doux amer, invincible animal. C'est-à-dire, voilà, tout est dit là. C'est le lyrisme parce que c'est dans l'absence de celle qu'elle aime que le désir se développe. Et c'est évidemment l'épanchement du moi. Et Sappho est la première qui parle de son désir de la façon la plus simple et la plus naturelle. Et je dois dire que partout, il y a cette mélancolie de l'absence, du désir. On l'a dans... Bon, on a des choses, évidemment... Par exemple, songe à travers la nuit noire, tuer quand le sommeil, Dieu doux, terriblement de l'inquiétude, de tenir séparé la puissance. Et il y a toute l'inquiétude de la nuit et de l'absence de l'aimé. Et puis, à d'autres moments, on a ce côté riant fort, ce poème qui démarre sur « Donne avantage à la bouche », superbe, et qui se termine « Mais moi, j'aime la grâce, et à moi, l'amour du soleil a donné en partage l'éclat et la beauté ». Et c'est toujours comme ça. C'est toujours rayonnant. Ce sont des aphorismes. Enfin, ce n'est pas des aphorismes au sens philosophique du mot. Ce sont des aphorismes poétiques à chaque instant. Elle savait rendre dense. Et le lyrisme, il est non pas dans l'épanchement, mais dans la force et la puissance du sentiment tel qu'il est dit, tel qu'il se dit dans l'absence à l'aimer.
Sappho, seule parmi les femmes, s'est pris de la beauté unie à la lyre, et pour cette raison, dédia toute sa poésie à Aphrodite et aux amours, prenant la beauté et les grâces pour prétexte de ses chants.
Himérios, discours.
On a l'impression qu'il y a un paradoxe à propos de Sappho, c'est-à-dire qu'on est toujours à sa recherche. On cherche des textes, on trouve des textes, on est heureux de trouver des nouveaux textes ou de nouveaux papyrus. On est à sa recherche et en même temps, on a l'impression qu'on la connaît. Enfin, qu'on la connaît par cœur depuis toujours. Et vous ne ressentez pas ça ?
Qu'on la connaît par cœur, oui, c'est cette familiarité, cette présence immédiate de la voix. Et puis, on ne peut pas non plus l'enfermer dans un savoir. Ça, c'est ni même dans une interprétation. Et ça, c'est le plus important. La plus grande difficulté, c'est de nettoyer Sappho de tout le mythe qui se crée et qui se rajoute à chaque moment, à chaque époque. Si on bouche tous les trous des papyrus, à l'aide de notre ingéniosité savante, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient tout, sauf malheureusement du Sappho. Donc il faut la nettoyer, la rendre à sa nudité, juste à sa voix, le plus possible, être auprès de cette présence tellement précieuse, puisqu'elle nous touche. Et c'est très important de laisser la respiration prendre les fragments et puis les restituer dans le mouvement, dans la voix.
Sappho, elle est une voix, bien sûr, pour vous, Umhani, mais une voix dans laquelle passe
oui,
toute une passion, quoi.
Je me suis laissée donc habiter par Sappho, cette prêtresse. Et ce que je ressens, c'est vraiment ce jaillissement au cœur du féminin, de l'essence féminine, avec tout ce que ça représente Donc ça peut être la prêtresse, l'amante, la femme, la mère, la petite fille, l'empire du féminin.
C'est la première fois qu'on plonge dans une intériorité. Et c'est... vous savez que c'est à la mode maintenant d'écrire des livres sur le corps, sur la découverte ou l'invention du corps. Mais on oublie souvent l'intériorité. On se somnubile sur l'anatomie descriptive, mais on ne pense pas qu'il y a d'autres anatomies. Par exemple, il y a une anatomie poétique. Le fragment dont je parle, auquel je fais allusion, qui est le fragment 31, c'est celui que nous rapporte Longin. Alors, Longin, nous sommes là à l'époque de Tibère à peu près, premier siècle après Jésus-Christ, Longin a écrit un traité qui s'appelle « Du sublime » et à l'intérieur du sublime, il donne des exemples de sublime, parmi lesquels ce fragment de Sappho. Il me paraît, celui là-bas, égal au Dieu, qui face à toi est assis, et tout près écoute ta voix suave et ton rire charmeur qui a frappé mon cœur d'effroi dans ma poitrine. Tant il est vrai que si peu que je te regarde, alors il ne m'est plus possible de parler, pas même une parole, mais voici que ma langue se brise et que subtil aussitôt sous ma peau court le feu. Dans mes yeux, il n'y a plus un seul regard. Mes oreilles bourdonnent, la sueur coule sur moi, je tremble. Le tremblement me saisit toute. Je suis plus verte que la prairie et je semble presque morte. Mais il faut tout endurer puisque... Et le fragment arrête là. Quand on aborde la poésie antique, et ce genre de poésie par-dessus tout, on est complètement prisonnier, on est d'abord abasourdi de la difficulté pour essayer de rendre un peu de la musique, un peu du rythme de cette, qui est extrêmement savant. Et évidemment, toute traduction propose une perte considérable. Mais il ne faut pas désespérer. Ce qui est important ici, c'est la vision brutale, dans le temps, un instant, de cette image, de ce tableau qui présente sans doute son aimé et face avec un jeune homme et qui immédiatement, elle est exclue du tableau. C'est trop sérieux pour qu'on parle de psychologie, vous comprenez. Il s'agit d'un sentiment qui touche le profond de l'être, immédiatement la compréhension qu'on est exclu à tout jamais de ce tableau du bonheur. Et alors commence la description de la souffrance en termes analogique, n'est-ce pas ? Je suis verte comme la prairie, etc. Ma peau court sur le feu, dans mes yeux, il n'y a plus à se regarder, mes oreilles bourdonnent, la sueur coule. Nous sommes dans une description qu'on doit appeler physiologique, que je n'appellerai certainement pas symptomatologique, comme a voulu le faire Devreux, pour la première fois, lit quelque chose du sentiment avec une description qui vous disperse en apparence dans des analogies la prairie etc et qui vous emmène vers une nature et en même temps comme le dit formidablement extraordinairement Longin le corps est constitué par le poème. C'est génial aussi comme analyse. La rencontre de Longin et de Sappho est quelque chose qui va éblouir les siècles.
Oh,
ce qu'elle dit sur ce qu'elle aime. Certains, une armée de cavaliers, d'autres de fantassins, ou encore de vaisseaux, disent que sur la Terre Noire, c'est ce qui est le plus beau. Mais moi, je dis que c'est celui ou celle qu'on aime d'amour. Enfin, et puis il y a des adresses directes. Alors, ces amantes, je t'implore, Gongila, prenant la lyre, pendant qu'à nouveau le désir vole autour de toi, la belle, ton vêtement même fait trembler celle qui regarde, et moi, je me réjouis. Parce qu'une fois elle-même, celle qui est née à Chypre, et ça se termine comme je souhaite cela, je veux. Voilà, enfin, je veux dire, on peut suivre à chaque fois, à la fois les tourments, l'amour, mais tout cela sous une forme qui n'est ni précieuse, c'est ce que je trouve très beau, c'est la modernité incroyable, c'est qu'il n'y a pas de préciosité. C'est une voix plus forte même que celle des hommes, elle l'était. Enfin, c'est difficile à faire comprendre que pour les anciens, c'était une voix aussi puissante qu'Homère. De même qu'on apprenait tout dans Homère, on apprenait l'amour dans Sappho. Et nul doute qu'on a beaucoup appris. Les marins récitaient, chantaient Sappho, enfin, je veux dire, sur les bateaux. Ce n'est pas, si vous voulez, c'est une poésie de grand vent, Sappho. Parfois, je suis irrité, je l'avoue, quand on essaye, à certains moments, on a voulu faire une poésie de boudoir, mais pas du tout. Sappho, on pourrait revenir sur la lumière, la force du soleil, du vent. D'ailleurs, l'Éros, c'est le vent qui s'abat dans les chaînes, vous voyez, avec cette violence. C'est ce qu'elle dit à chaque instant. Elle est profondément grecque, en fait, en ce sens que la beauté n'a de sens que dans la nature, pour elle. Et que c'est dans la nature qu'elle aime et qu'elle rêve. Hein. Voilà.
C'est d'abord une voix qui chante. Lorsque Solon, à Athènes, entend quelqu'un qui lui raconte, qui lui chante un poème de Sappho, aussitôt il demande à cette personne de le lui apprendre. Cette personne lui dit pourquoi. Il dit, la réponse est célèbre, pour l'apprendre et mourir.
Oui, je voulais dire qu'en fait, d'abord le chant me vient, si vous voulez, et c'est le chant lui-même qui amène la consistance et la substance active du mot. Voilà. C'est-à-dire d'abord la mélopée, comme si on rentrait en connexion, quelque chose comme ça, et après le mot est là.
Si on veut faire une reconstitution, on se place dans une situation où on est investi de toute une rationalité académique, de tout un savoir. Et on va dire, voilà, là, ce sont des indécasyllabes saphiques, longues, brèves, longues, etc. Là, on va être, si on veut reconcilier la musique, dans tel genre, tel trope. Et en fait, on risque de passer entièrement à côté de l'expérience. Et la seule chose qui compte, c'est l'expérience. C'est ce qui est vécu dans la voix au moment où la chose se fait. Qu'on lise, qu'on chante, quoi qu'on fasse, si on ne rentre pas en connexion avec cette espèce de mystère, en fait, on manque tout.
Aujourd'hui, alors, on est à la tête de 12 nouveaux vers, c'est ça, Philippe Brunet?
Oui, en fait, du point de vue des papyrologues, beaucoup plus. Mais la plupart de ces vers qu'on a retrouvés sont malheureusement très mutilés, mais précieux tout de même. Et puis surtout, au cœur du papyrus de Cologne, donc, qu'on a publié, enfin, la première édition du papyrus date de 2004, donc c'est encore assez récent, ça n'est pas intégré dans les éditions actuelles ou traductions qu'on peut lire aujourd'hui en France. On a un noyau, effectivement, de 12 lignes.
Alors, papyrus de Cologne, expliquez quand même, parce qu'il y a des papyrus à Cologne.
Il y a des papyrus à Cologne, comme il y en a à la Sorbonne, où on rapporte tantôt des momies bon marché, d'époque relativement tardive, qui n'intéressent plus les égyptologues, mais qui intéressent, de manière très forte, les hellénistes. Parce que dans les cartonnages de la momie, ont été souvent utilisés des restes de vieux livres de papyrus, encollé pour former un plastron, par exemple. Par exemple, on a un papyrus décollé par Jouguet à la Sorbonne, donnant quelques colonnes de l'Odyssée. Et de même, on a les Sicyoniens de Ménandre, plusieurs colonnes comme ça de papyrus qui sont conservées essentiellement sur les plastrons. Pour les parties qui sont sur les bras ou les jambes, celles sont très difficiles à utiliser. Et quand on décolle, Mais tant le miracle se produit, on a des restes. Comme ça qu'à Cologne, on a retrouvé en 1974 de l'archiloque, un long poème érotique. Et comme ça qu'on peut apprécier, non pas un nouveau poème, mais un poème qu'on connaissait déjà, qui était extrêmement mutilé. On n'avait que la partie droite du texte, et puis la conclusion citée par Athénée. Et là, on peut lire donc un poème quasiment dans son intégralité. Enfin, on peut le supposer en tout cas.
Oui. Quel est son thème?
Alors, c'est un poème très ancré dans la biographie de Sappho, puisque c'est le poème de la vieillesse. Et on avait déjà ces bribes qui disaient « Gonadou peroisi, mes genoux ne me portent plus ». Et je voulais... On avait « Isane brioisi », pareil à de jeunes biches. Et maintenant, on sait que autrefois je dansais comme dansent les jeunes biches. Et on pouvait le comprendre dans cette espèce de fragmentation comme ça du poème. Mais là, on a les vers. Et là, elle dit la teinte de l'âge, les cheveux blancs qui arrivent, la fatigue qui l'empêche d'aller danser avec les jeunes filles. On a le début, l'invocation, même s'il manque les premiers mots du poème, on a l'épithète Iokolpon, épithète des muses, au sein de Violette. Et puis on a l'apostrophe à des jeunes filles, Paedes. Et à la fin de ce fragment, le mythe de Titon, dont Aurore tombe amoureuse et pour qui elle demande l'immortalité en oubliant de lui demander la jeunesse.
Io colpon caladora paedes. Pilaoi don liguran celunnan. Poteon ta croa guerra sede.
Sappho mélancolique.
Ah, certainement, oui. Par l'alliance dont j'ai parlé, de la nausée et de la peine, de la douleur, par l'importance donnée aux sensations. Mélancolie ne veut pas dire tristesse, on est bien d'accord. Hein. La mélancolie m'intéresse pour des raisons qui sont les mêmes toujours dans ce que je fais, pour la poésie justement. C'est que la mélancolie, c'est aussi la force, le moteur de la force poétique. Et la plainte amoureuse, le mal d'amour vont faire partie d'un certain, on pourrait dire aussi plus tard, d'un genre littéraire, on le voit avec Ferrand. Mais la mélancolie, c'est aussi le lieu du génie. Pas le lieu du génie, mais l'occasion du génie, évidemment. Sappho est une muse mélancolique. Et la muse. Et dès qu'il y a plainte amoureuse, dès qu'il y a désignation d'une souffrance, il y a Sappho.
Tada potalaipsere on urkest isanebrioisi. Tamen stenakisdom tameos allatiken poeian.
Et Sappho, puisqu'elle nous apprend quelque chose, elle nous est très proche. Ça nous dit, ça nous ouvre à ce rapport à l'amour qu'elle a. C'est un rapport à la fois très assez redoutable dans la mesure où elle est capable de m'originer, hein, et en même temps un rapport à l'amour physique. Il y a des fragments superbes là. Vous permettez que je cherche un peu?
Bien sûr.
Dans mon livre. C'est cette plainte crainte et tremblement, on pourrait dire, hein. C'est ce qui reste du fragment 21, ce qui reste du 21. Plainte, tremblement, maintenant la vieillesse enveloppe ma peau, le désir vole à ma poursuite de la resplendissante. Prends la lyre et chante pour nous, celle à la ceinture violette. Par-dessus tout, elle erre. Extraordinaire, non ? L'amour, mais aussi la solitude, l'échec de l'amour et la mort. Cette phrase de ce fragment 168b qui est si émouvant. La lune a plongé avec les Pléiades, la nuit est à son milieu et moi je dors seul. Vous avez en si peu de mots à la fois un paysage, la lune, la nuit et la solitude.
Lorsqu'on commence à lire un mot d'Homère, un vers de Sophocle, ou un fragment de Sappho, il se passe une chose que on vit à nouveau quelque chose. C'est une nouvelle expérience. Le seul fait de dire nous entraîne extrêmement loin. Et en fait, on rentre dans le mystère de ce qu'on appelle, ce que les Grecs appelaient la mimesis. C'est-à-dire qu'on rejoue la chose. On revit, on réactualise une expérience. Et si Oumanie prend les mots de Sappho en grec ancien, et les redit, et les restitue avec sa voix et son souffle, et les rend au cosmos, alors il y a une expérience, effectivement, qui est de l'ordre de cette mystique, la même mystique, si vous voulez, qu'Alexandre, Alexandre le Grand, lorsqu'il est arrivé au rivage de Troie, il a voulu être le premier à descendre et à toucher le rivage. Pourquoi ? Parce que c'est ce que Protésilas avait fait lorsqu'il est arrivé, justement, à Troie avec toute l'armée achéenne. Donc, pour les Grecs, déjà, il y avait ce besoin essentiel de rentrer dans les... de réitérer les expériences. En fait, le théâtre, toute la culture, la religion est fondée sur cette répétition. C'est qu'on a la possibilité de découvrir. On lit juste, mais très simplement. Poikilotron, athanata prodita. Et on est guidé par les voyelles, par l'intonation des mots, par les consonnes, par les mots, la chair des mots. Et puis, après, il n'y a pas de raison de ne pas redire encore. Et encore et encore. Il n'y a pas de raison de ne pas non plus étoiler la parole. La fragmenter, c'est-à-dire qu'elle est elle-même immensément riche, et dans l'unité du poème, du fragment, du vers, on peut dire, redire, refaire, et on est sans arrêt invité à faire venir tous les instants, toute la pluralité des mondes finalement et des voix dans l'expérience unique de dire Sappho.
Elle nous montre aussi que nous sommes des espaces de traduction. Comme je dis souvent. On dirait maintenant, dans un vocabulaire un peu stupide, elle est très douée pour l'introspection. Hein. C'est-à-dire pour la traduction d'elle-même en sensation, la traduction d'elle-même en l'expression des sensations. Par exemple, on a dit que le moi intérieur était un moi organique. Je n'ai cessé de lutter contre cette formule. C'est du moi organique interprété. S'il n'est pas interprété, il n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que là, nous sommes, nous, à notre, sans être poète, contraints quand même à des métaphores pour exprimer ce que nous ressentons. Mais ce que nous ne faisons pas toujours, nous ne sommes pas tous des Sappho, nous ne parvenons pas à donner de l'un, de l'unité, de l'organique à toutes ces sensations et à fabriquer quelque chose qui tienne comme de l'un. Il me paraît celui là-bas égal au dieu. Et celui là-bas, je traduis comme ça, Ekainos, c'est le démonstratif de l'éloignement. Égal au dieu qui face à toi est assis et tout près écoute ta voix suave et ton rire charmeur qui a frappé mon cœur d'effroi dans ma poitrine. Tant il est vrai que si peu que je te regarde, alors il ne m'est plus possible de parler, pas même une parole. Mais voici que ma langue se brise, et que subtil aussitôt sous ma peau court le feu. Dans mes yeux, il n'y a plus un seul regard. Mes oreilles bourdonnent, la sueur coule sur moi, le tremblement me saisit toute. Je suis plus verte que la prairie, et je semble presque morte. Mais il faut tout endurer, puisque... Et c'est la fin du fragment.
Et sa vieillesse, alors ?
D'avoir quelqu'un qui nous dit « Mes genoux ne me portent plus, gonadou pero ici », c'est à la fois quelque chose de très personnel, qu'on est heureux de pouvoir rapprocher de quelqu'un, d'une personne qui a vécu, et en même temps, c'est aussi un motif littéraire. Alors c'est très difficile à déceler, mais il y a un poème très fameux d'Alcman. Alcman, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans le genre lyrique avant Sappho. Il vivait à Sparte, et il écrit un poème en hexamètre dactylique où il se compare à l'oiseau fatigué qui ne peut plus voler, qui n'a plus la force de voler. Et on peut rapprocher comme ça ce poème du fragment du nouveau papyrus, donc de Sappho.
Il y a aussi une légende sur la mort de Sappho qui dédoublerait au fond le personnage de Sappho, non ?
Oui, alors ça c'est... Sappho est très connu par différents faits biographiques interprétés ou surinterprétés dans certains de ses poèmes, parce que certains ont cru voir des ébats entre Sappho et des jeunes filles dans certains fragments où c'est très difficile de reconnaître vraiment quelque chose de très précis. Mais je ne veux pas absoudre Sappho de la passion physique, y compris physique, mais physique ne veut pas dire... c'est l'intégralité de l'amour qui est vécu par Sappho et véhiculé. Mais au moment de sa mort, on a des témoignages de poètes comiques, puisque ces poètes comiques se sont emparés du personnage de Sappho. Ils ont fait d'elle l'amante d'Anacréon, enfin de tous les poètes qui passaient à un siècle ou deux près, dans l'histoire de la poésie grecque. Et il y a un fragment de Ménandre qui dit que Phaon poursuivait Sappho de ses assiduités et que Sappho se serait jetée du haut de la falaise blanche de Leucade.
Et donc, par amour pour lui.
Voilà, par désespoir, par amour ou par refus. Enfin, ça est très difficile à dire. Et c'est vrai que le saut d'une personne dans la mer, ça nous rapproche de la tombe du plongeur à Paestum. Et donc, c'est quelque chose d'initiatique. Il y aurait là comme un élément. Mais il est très difficile à appréhender, puisque là, on est par le biais de la comédie interprétant la biographie de Sappho. Et donc, on ne peut rien dire.
Ertis ego disemaion man, onde psuxas man, prenacaio menon potu.
Et ces paysages qu'elle sait faire, il y a l'eau, il y a le vent, il y a les oiseaux, il y a la nuit, il y a l'aurore, il faut aller à petits pas.
Avec Jackie Pigeot, traducteur de Sappho, édition Payot Rivage.
Écoutez ça, par exemple. Et ici, l'eau fraîche brouille à travers les branches des pommiers, et tout le lieu est ombragé de roses, et depuis les feuilles agitées coule un sommeil profond. Et il y a un pré où paissent les chevaux, tout fleuri des fleurs du printemps, et les brises respirent le miel. Voilà, mais je trouve que c'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. À la relecture, j'aime ça.
Et avec Philippe Brunet, traduction éditée à l'âge d'homme, Pascal Charvet, poèmes et fragments de Sappho, aux éditions La Délirante. Hani, qui improvisait sur 4 poèmes en grec ancien, et Sappho, notre contemporaine, qui lisait sa lettre à une aimée très présente, et 2 poèmes traduits par Jérôme Vérin. Coordination, Anne de Biran. Prise de son et mixage, Alain Joubert. Une émission de Simone Douek, réalisée par Françoise Camard.
Sappho, poétesse du 7e siècle avant notre ère dans Une vie, une œuvre. Merci à Simone Dweck et à Françoise Camard. La semaine prochaine, nous parlerons encore des femmes, mais d'une toute autre manière cette fois, par le regard complexe qu'Albert Cohen portait sur elles, notamment dans son magistral roman Belle du Seigneur. Bonne journée à tous, à l'écoute de France Culture.